Bonjour et bienvenue dans RFI Midi. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. Il est tout juste 14h à Paris.
RFI Midi, Olivier Sherman.
L'aide internationale continue à arriver en Birmanie où le séisme qui a frappé la région a fait plus de 1700 morts pour l'instant. L'ancien ambassadeur de France en Birmanie, Christian Lechervy, sera notre invité pour parler de la situation compliquée dans ce pays. Valentin Sébron, notre correspondant en Thaïlande, est de son côté à Bangkok avec les familles au pied des décombres à la recherche de survivants. Un journaliste suédois arrêté et placé en détention à Istanbul. Il est accusé de terrorisme et d'insultes au président turc. La libération de ce journaliste est une priorité absolue du gouvernement suédois. Une déclaration de la ministre suédoise des Affaires étrangères. Les explications à suivre de notre correspondante à Stockholm, Ottilia Ferré. Les pires incendies de l'histoire de la Corée du Sud, au moins 30 morts et une étendue en flammes considérable. Un suspect a été interpellé et pourrait être à l'origine de ces feux, nous dira Pauline Glaise. Dans ce journal enfin, un SOS pour les océans, une opération lancée à Paris, à quelques semaines de la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice. Le patron de la fondation Tara, Romain Troublé, fait partie de la mobilisation internationale. Ce n'est pas seulement un désastre, c'est une crise humanitaire complexe s'ajoutant à des vulnérabilités existantes. La communauté mondiale doit intervenir pour apporter une réponse courageuse et durable. Voilà la déclaration ce matin de la Croix-Rouge internationale qui lance un appel pour recueillir plus de 100 millions de dollars pour la Birmanie. La Birmanie est le pays touché après le puissant séisme de vendredi qui a frappé la région et qui a fait au moins 1700 morts selon un bilan très provisoire. L'ampleur de la catastrophe reste toujours difficile à évaluer avec précision. Dans ce pays isolé et fracturé où les généraux combattent des dizaines de groupes armés dans plusieurs régions, les secours tentent de rechercher des survivants dans les montagnes de destruction et de venir en aide aux sinistrés. L'aide internationale continue d'arriver. La Chine a envoyé 82 sauveteurs et s'est engagée à fournir près de 14 millions de dollars d'aide humanitaire d'urgence. Un avion chargé de kits d'oxygène, d'hygiène, de couvertures, de nourriture et d'autres produits de première nécessité a atterri hier en provenance d'Inde. La Corée du Sud, les États-Unis et l'Union européenne notamment ont aussi annoncé une aide. Le tremblement de terre le plus puissant qu'ait connu la Birmanie en plusieurs décennies a été ressenti jusqu'à Bangkok, la capitale thaïlandaise, où une tour de 30 étages en chantier s'est effondrée comme un château de cartes. Les recherches se poursuivent justement à Bangkok pour retrouver des survivants ensevelis sous cet immeuble qui s'est écroulé. Sur place, notre correspondant Valentin Sébron a recueilli le témoignage de leurs proches qui attendent la bonne nouvelle.
Devant la carcasse de l'immeuble qui s'est effondré, une tente jaune est installée pour se mettre à l'ombre et se protéger de la chaleur cuisante. À l'intérieur, certains proches des ouvriers toujours piégés sous les décombres scrutent les pelleteuses qui déblaient le chantier en ruine, comme Pok, l'air complètement abattu.
Il y a mon petit frère et mon oncle. Ils font partie d'une équipe de 5 personnes que je connais. 3 sont déjà morts. J'espère que je vais les revoir, mais je ne sais pas. Je n'ai pas de nouvelles. On attend d'avoir plus d'informations.
Il montre du doigt derrière lui un ouvrier qui a survécu. Sampan, maçon, raconte comment il s'est sauvé in extremis.
J'étais descendu pour aller chercher du matériel et j'utilisais la grue pour le faire remonter au dernier étage. La grue a commencé à trembler, alors je me suis mis à courir. Et une seconde plus tard, tout s'est écroulé. Un ami travaillait tout en haut, je n'ai pas de nouvelles de lui, je suis inquiet. Mais j'ai espoir qu'on retrouve des survivants.
Quand le séisme a frappé, c'était seulement son deuxième jour sur ce chantier. L'homme de 29 ans est encore choqué, mais il se dit chanceux d'être sain et sauf. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
RFI.
Il venait d'atterrir à l'aéroport d'Istanbul, c'était jeudi. Le journaliste suédois Joakim Medin a été immédiatement arrêté et placé en détention. Il est accusé de terrorisme et d'insultes au président Recep Tayyip Erdogan. Il est accusé d'avoir participé en janvier 2023 à une manifestation organisée par les partisans de l'organisation PKK à Stockholm, lors de laquelle une marionnette figurant le chef de l'État turc aurait été moquée. La libération de ce journaliste suédois est donc une priorité absolue du gouvernement. C'est ce qu'a déclaré ce matin la ministre suédoise des Affaires étrangères. À Stockholm, on retrouve notre correspondante Ottilia Ferré.
Ce sont des accusations graves qui sont complètement fausses. C'est ce qu'a déclaré ce samedi le rédacteur en chef du quotidien Dorgens, etc., pour lequel Joachim Medin travaille. 15 autres personnes sont suspectées dans une enquête lancée après qu'une poupée représentant Erdogan avait été accrochée tête en bas devant l'hôtel de ville de Stockholm en 2023. Le groupe d'activistes à l'origine de cette manifestation répète que le journaliste suédois n'est pas un de leurs membres et qu'il n'a nullement participé à cette action. Joachim a atterri à Istanbul le 27 mars dernier pour couvrir les manifestations sur place. Juste avant midi, il envoie son dernier message disant « Maintenant, il m'emmène pour un interrogatoire ». Depuis, silence radio. Son sort est désormais entre les mains du ministère suédois des Affaires étrangères et de son avocat qui a enfin pu le rencontrer ce samedi. Il rapporte qu'il est à l'isolement dans une cellule jusqu'à mercredi au moins et que personne n'a expliqué à Joachim de quoi il était accusé. Joachim est journaliste, rien d'autre, et pratiquer le journalisme ne devrait pas être un crime, a martelé son rédacteur en chef. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
La Corée du Sud subit les pires incendies de son histoire, autant en surface, avec 48 000 hectares partis en fumée depuis le week-end dernier, qu'en termes de bilan humain, au moins 30 personnes ont été tuées dans ces feux. Plusieurs sites historiques sont aussi partis en flammes. L'enquête avance. La police s'intéresse à un homme suspecté d'avoir déclenché ces feux de forêt. Les précisions de Pauline Glaise.
Les enquêteurs soupçonnent un homme de 56 ans d'avoir provoqué au moins une partie de la catastrophe, et ce en entretenant les tombes de ses grands-parents dans le district le plus touché par les incendies. Selon l'agence Yonhap, la fille du suspect leur aurait expliqué que son père avait tenté de brûler avec un briquet des branches qui pendaient au-dessus des tombes. Les braises auraient ensuite été transportées par le vent et auraient allumé un feu de forêt. Les conditions météorologiques et climatiques n'ont pas arrangé les choses. Les vents forts ont alimenté la dizaine de foyers. Par ailleurs, cela fait des mois que la région reçoit moins de pluie que la moyenne et la Corée du Sud sort de son année la plus chaude jamais enregistrée. La police a pris contact avec le quinquagénaire mais ne l'a pas placé en détention. Elle le convoquera pour interrogatoire une fois les recherches sur le lieu présumé du départ de feu terminées. Cela pourrait prendre plus d'un mois.
Dans 10 semaines, la France va accueillir à Nice, dans le sud du pays, la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Objectif, réunir tous les secteurs liés à la mer pour tenter de renforcer la connaissance sur les océans, leur protection et favoriser une utilisation plus durable de la vie marine. Car nos océans sont en danger à cause des activités humaines, la surpêche, pollution, réchauffement climatique, élévation du niveau de la mer, disparition d'espèces marines. Pour lancer la mobilisation internationale, le gouvernement français a convié ce dimanche et demain un parterre de politiques, scientifiques, militants et quelques personnalités pour lancer un SOS pour les océans. Parmi les invités, Romain Troublé, le directeur général de la fondation Tara Océan, qui mène depuis 2003 des expéditions scientifiques pour étudier la biodiversité marine et observer et anticiper les impacts du changement climatique et des pollutions.
L'océan est en simple catastrophe, hein. Il est surexploité, il est mal exploité surtout, beaucoup de pêche illégale, beaucoup de surpêche, la plupart subventionnée par nos impôts, par l'argent public. Il est indispensable pour l'oxygène qu'on respire, que respire la planète, pour le CO2 qui est capté par les océans. Et cet océan, il a la fièvre, il a chaud, ça fait déjà 1 degré d'augmentation de sa température, c'est énorme, hein. Les écosystèmes ont la fièvre, ils ont 1 degré de fièvre finalement. Et donc aujourd'hui, il est grand temps de taper du poing sur la table et de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va continuer à faire n'importe quoi ou est-ce qu'on se prend en main et on fait notre trajectoire ?
Romain Troublé, le directeur général de la fondation Tara Océan, au micro de Lucille Gimbert.
RFI Midi.
À suivre dans RFI Midi, l'analyse de la situation en Birmanie avec Christian Lechervy, ancien ambassadeur de France sur place. Nous parlerons d'aide internationale, de la situation politique sur place entre la junte militaire au pouvoir et l'opposition insurgée et des priorités pour ce pays. Luc Alazo nous emmènera à Kandil, dans les montagnes du Kurdistan, où chaque année les soutiens du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, se réunissent au printemps pour fêter le nouvel an kurde où la guérilla s'est réfugiée. Franck Alexandre reviendra en détail sur le bilan de la rencontre à Paris cette semaine d'une trentaine de pays alliés de l'Ukraine. Un sommet destiné à finaliser des garanties de sécurité pour Kiev, dont un éventuel déploiement militaire européen si un accord de paix est trouvé. Mais tout de suite, les sports avec Olivier Pron qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Olivier Sherman et bonjour à tous.
Beaucoup de football au programme. D'abord la Ligue 1 en France où le PSG n'a pas pu être sacré hier soir.
Et il s'en est fallu d'un but, celui de Brel Mbolo, le monégasque, face à Nice en fin de soirée pour retarder l'échéance d'un inéluctable 13e titre parisien, soyons clairs, le 4e de rang. L'AS Monaco, grâce à ce but d'Embolo, s'est donc imposé 2-1 dans le derby de la Côte d'Azur. Logique respectée pour le capitaine monégasque Denis Zakaria.
C'est aussi une victoire bien méritée. Je pense que voilà, on a bien joué ce match. On a montré qu'on voulait prendre les 3 points et aujourd'hui, je pense que c'est mérité qu'on gagne ce match. Alors, on s'est clairement dit qu'on avait fait une bonne première mi-temps. Malheureusement, on a pris ce goal contre le cours du jeu, mais voilà, on savait qu'on était capable de tourner ce match et on a su le faire en deuxième mi-temps. On prend chaque match après, on prend match après match et puis on essaye d'être le plus performant possible et de prendre le plus de points possible.
Et voilà les monégasques donc longtemps menés mais victorieux. Ils sont deuxièmes à 21 points de Paris à 7 journées de la fin. Le PSG qui est allé écrabouiller, il n'y a pas d'autre terme, façon tennis, hein, Saint-Etienne 6-1.
Des monégasques donc qui ont doublé qui?
Je vous le demande. Eh ben Marseille, voyons, hein, désormais troisième à une longueur après une troisième défaite de rang en championnat chez une équipe, Reims, qui n'avait plus gagné le moindre match depuis 4 mois. C'est dire, un revers 3-1 et une sacrée mise au point à la fin, signé Adrien Rabiot.
Ok, il y a eu la trêve, on n'a pas eu le temps de beaucoup préparer ce match, mais voilà, c'est pas suffisant. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui n'ont pas envie de jouer, qui n'ont pas envie de jouer l'Europe, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça. Dans les duels, on n'est pas présent. Sur le contre-pressing, pareil. Il faut se remettre en question, il faut savoir ce qu'on veut faire. Il reste 7 matchs. Si on veut aller en Ligue des Champions, moi je suis venu pour ça. S'il y en a qui ont pas cette ambition-là, il faut qu'ils le disent tout de suite, il faut qu'ils le disent avant les matchs, qu'ils laissent d'autres jouer. Et voilà, parce que c'est pas assez.
Bon, ça a dû être drôlement sympa dans le vestiaire après le match, dis donc, du côté de Marseille. La suite de cette 27e journée, Olivier, ce dimanche, avec en soirée le derby du Nord, Lille-Lens, Europe en vue.
Alors, il y avait du foot ailleurs en Europe et en Angleterre, notamment.
Où l'on dispute ce week-end les quarts de finale de la Cup, après la qualification hier de Crystal Palace et de Nottingham Forest. Place ce dimanche à Preston North End, Aston Villa, dans quelques minutes. Puis à 15h30, TU, Bournemouth, Manchester City. La FA Cup, unique chance de titre pour les Citizens avant la fin mai, ne pas finir la saison bredouille avant la première édition du Mondial des clubs qui démarrera à mi-juin aux États-Unis, avec ou sans le Ballon d'Or Rodri en rééducation après sa blessure au ligament croisé en début de saison. L'entraîneur mancunien Pep Guardiola se veut prudent.
Le médecin a indiqué qu'il aurait une absence d'environ 7 mois et demi, 8 mois. Nous approchons les 6 mois, 6 mois et demi. Sa réaction à sa reprise sur le terrain est encourageante. Mais la compétition, c'est complètement différent. Donc nous verrons bien pas à pas. Je me repose sur son éthique de travail ou sur ce que les médecins et les kinés disent. Mon objectif n'est pas de grignoter une ou deux semaines ici ou là pour le voir au Mondial des clubs, puis le reperdre à nouveau pour de longs mois. Nous devons nous assurer qu'il est en forme. Ensuite, nous le réintégrerons.
Voilà pour la Cup en Angleterre, Olivier. En Espagne, doublé de Mbappé hier pour le Real qui bat les Ganes 3-2 et revient à hauteur du Barça qui joue tout à l'heure face à Gérone. Un tout dernier mot de tennis à Miami, tournoi remporté chez les dames la nuit dernière par Arina Zabalenka, la numéro 1 mondiale. Et chez les hommes, ce soir qui Djokovic vise un 100e titre en carrière, le jeune Mencik face à lui, le premier à ce niveau.
C'était le journal des sports d'Olivier Pron. Retour donc sur la situation en Asie du Sud-Est, gros plan sur la Birmanie, après le puissant séisme avec Christian Lechervy, ancien ambassadeur de France en Birmanie, aujourd'hui envoyé spécial de la France pour la Birmanie en appui des efforts internationaux. Christian Lechervy, bonjour.
Bonjour.
Monsieur l'ambassadeur, vous étiez en poste jusqu'en 2023. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez concernant la situation ce dimanche sur place?
Bon, on est dans une phase, je dirais, à la fois de l'arrivée des premiers secours apportés par l'Inde, la Chine, Hong Kong, la Thaïlande, Singapour. Les premiers sauveteurs sont sur le terrain. Ils ont heureusement déjà pu sortir quelques victimes. En parallèle, il y a une évolution sur le terrain sécuritaire. Le gouvernement parallèle a appelé à un cessez-le-feu de ses forces pour les 15 jours qui viennent. Et dans cette logique-là, un certain nombre d'acteurs internationaux, à commencer par les pays de l'ASEAN, viennent eux aussi de s'engager sur ce type d'appel pour faciliter l'acheminement des secours. La troisième phase, c'est qu'il nous faut évaluer de manière extrêmement précise l'ampleur des dommages, à la fois sur les biens et les personnes, mais aussi sur les infrastructures de transport qui devront être mobilisées.
Alors, revenons déjà peut-être sur l'aide internationale. La junte militaire a appelé une aide internationale, ce qui n'est pas courant du tout. Mais dans le même temps, on s'aperçoit que les secours, pour des questions administratives de visa notamment, ont du mal à arriver dans le pays. Comment on l'explique ?
Bon, il y a toujours un temps de latence, malheureusement, dans ce genre de situation. Il y a une nécessité de grande coordination. Un certain nombre d'infrastructures aéroportuaires ont subi des dommages très importants. C'est le cas de l'aéroport de la capitale, c'est le cas de l'aéroport de Mandalay, qui est vraiment au plus près de l'épicentre. C'est la ville qui a été la plus dévastée. Il y a aussi le peu d'expérience des fonctionnaires de la capitale. Vous l'avez rappelé, le pays a déjà connu ces dernières années, et j'allais dire ces dernières décennies, des catastrophes de grande ampleur. Il avait déjà été confronté à difficultés de coordination. Et puis, enfin, il peut y avoir aussi des réticences politiques et administratives. On voit malheureusement que, alors que le séisme fait de nombreux dégâts, de nombreuses victimes, les forces armées du régime militaire poursuivent leur offensive sur un certain nombre de terrains et bombardent, y compris des cantons qui ont été malmenés par la croûte terrestre.
Justement, cette abondance-là de soutien pourrait poser aussi des problèmes dans les zones de conflit.
En tout cas, il y a la nécessité que l'aide parvienne à tous ceux dont il y a besoin. Et ça, c'est une question, je dirais, d'heures et de minutes. Et donc, il y a la nécessité d'avoir une approche réellement humanitaire, j'allais dire humaniste, de la situation. Et il faut le faire vite, parce que dans une catastrophe de ce type, les victimes, il faut les dégager dans les 72 heures. Au-delà, la survie est quand même très, très incertaine.
Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais la situation en Birmanie, en ce moment et depuis des années, est compliquée. Ce séisme intervient dans un pays où un conflit civil dure depuis le coup d'État de 2021. Comment se positionne sur le terrain le régime militaire, l'opposition insurgée et voire les pays étrangers maintenant ?
Bon, le régime militaire met en scène évidemment ses actions, l'opposition également. Il y a une forme de confrontation de communication où chacun cherche à faire valoir ses efforts et les matérialise sur le terrain avec des dons, avec la mobilisation de ces ressources. Donc il faut prendre en considération que l'aide humanitaire, elle doit arriver par l'ensemble des territoires, ceux qui sont maîtrisés par le conseil d'administration de l'État et ceux qui sont maîtrisés par des groupes ethniques ou par l'opposition qui a émergé après le coup d'État. La communauté internationale, elle doit tenir compte aussi de cette réalité, que ce soit au travers des agences des Nations Unies, que ce soit au travers des organisations non gouvernementales, que ce soit au travers des instruments, des organisations régionales.
Christian Le Chervy, merci beaucoup pour votre analyse de la situation. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de France en Birmanie, aujourd'hui envoyé spécial de la France pour la Birmanie en appui des efforts internationaux. Et vous êtes également l'auteur de L'Asie Pacifique, nouveau centre du monde, aux éditions Odile Jacob. Chaque année, les soutiens du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, se réunissent au printemps pour fêter le nouvel an kurde dans les montagnes du Kurdistan irakien où la guérilla s'est réfugiée. Alors qu'un processus de paix est en cours entre le mouvement kurde insurgé et l'État turc, les familles des combattants ont profité de l'occasion pour prendre des nouvelles de leurs proches engagés au sein du PKK et dont elles espèrent que le processus de paix leur permettra de retrouver la vie civile. Reportage à Kandil de Lucas Lazo.
L'espace d'une nuit de danse, de musique et de discours, les partisans du PKK se réunissent pour célébrer Newroz, le nouvel an kurde. Une fois par an, la guérilla leur ouvre ses portes dans son bastion des montagnes de Kandil au nord de l'Irak. Pour les familles des insurgés, c'est aussi l'occasion d'un discret pèlerinage, à l'image de Shaya dont la fille est morte au combat en 2006.
Je suis venue fêter Newroz à Kandil pour sentir le parfum de ma fille, Zilan, et de tous ses camarades qui sont morts pour la liberté des Kurdes.
Protégée par des cimes escarpées qui s'élèvent à plus de 3000 mètres, la plaine de Kandil est une forteresse naturelle. C'est ici que le PKK a installé ses quartiers généraux dans les années 90, ainsi que les académies militaires et politiques au sein desquelles les aspirants combattants se forment à la guérilla.
Kandil, c'est un endroit très spécial et on sait que nos enfants sont tous passés par ici, au cœur de la révolution. Zilan a vécu presque un an à Kandil. Ces arbres qui nous entourent nous rappellent nos enfants. Ils ont poussé sous leurs pieds et ont été arrosés par leur sang.
De nombreux combattants du PKK sont tombés à Kandil, constamment bombardés par les drones de la Turquie. Leurs portraits juvéniles sont exposés au regard le long de la route qui serpente dans la montagne et devant lesquelles des familles viennent se recueillir. D'autres sont à la recherche d'informations.
La plupart des mamans viennent à Kandil pour Newroz avec l'espoir d'apercevoir leurs enfants. Or, c'est possible qu'ils soient déjà morts, mais qu'elles ne le savent pas encore.
En marge des festivités, des femmes, le visage recouvert d'un voile blanc, arrêtent un homme à l'allure d'officier et font défiler des photos sur leur téléphone. Trois enfants d'Amina sont déjà morts dans les rangs du PKK et deux de ses filles sont toujours mobilisées. La maman est inquiète.
Je n'ai pas de nouvelles de mes filles. Je ne les ai pas vues ici. Je ne sais pas où elles sont. J'espère qu'elles sont vivantes.
Les règles du PKK sont particulièrement strictes et les contacts avec les familles prohibés. À l'abri dans sa tente battue par la pluie, Fatima a eu plus de chance et peut se réjouir.
Cette année, je suis venue à Kandil pour la première fois. Ça fait près de 20 ans que je n'avais pas vu certains membres de ma famille. J'ai une fille ainsi que deux oncles qui se battent ici dans les montagnes. J'ai pu les voir aujourd'hui. C'était formidable de pouvoir leur parler, ils m'ont tellement manqué. Je leur souhaite d'être libres bientôt.
Sur la scène principale, les discours politiques s'enchaînent. Cette année, le nouvel an kurde s'inscrit sous le signe des négociations de paix engagées entre la guérilla du PKK et la Turquie.
Je souhaite que les prisonniers soient libérés et que nous puissions rentrer chez nous, parce que nous sommes des réfugiés ici, au Kurdistan irakien.
C'est dans l'exil que les enfants de Fatima ont emprunté les sentiers de la guérilla, et c'est ici dans les montagnes de Kandil que seront discutés ces prochains mois les détails du processus de paix par les chefs du PKK. Lucas Lazo, de retour de Kandil, RFI.
Une trentaine de pays alliés de l'Ukraine étaient réunis jeudi à Paris pour un sommet destiné à finaliser des garanties de sécurité pour Kiev, dont un éventuel déploiement militaire européen si un accord de paix est trouvé. Les Britanniques et les Français, à l'origine de cette initiative, vont dans les prochains jours envoyer une mission en Ukraine pour préparer ce que sera le format de l'armée ukrainienne ainsi qu'un possible déploiement de forces. Un chemin difficile à tracer, ligne de défense avec Franck Alexandre.
Premier axe d'effort, un soutien accru à l'armée ukrainienne. Et si cela ne suffit pas, les pays européens volontaires envisagent de déployer des troupes au sol. Une réflexion qui a débuté le 17 février dernier rembobine le diplomate Jean de Glignasti.
Macron réunit ses collègues européens pour essayer de répondre à un questionnaire de 6 questions présentées par l'administration Trump qui tournait autour de qu'est-ce que l'Europe est prête à faire en matière de garantie de sécurité pour l'Ukraine et quel soutien elle attend des États-Unis dans ce domaine. Et donc l'Europe a essayé d'avancer sur deux fronts, si j'ose dire. D'une part, renforcer son potentiel militaire, ce sur quoi tout le monde est d'accord, et d'autre part, essayer de travailler sur les garanties de sécurité que l'Europe peut fournir. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que seule une partie des Européens est d'accord pour le faire. La présence de troupes européennes sur le territoire ukrainien sera, s'il y a un accord, réglé par l'accord. Et là, c'est très peu probable parce que les Russes n'en veulent pas, les Américains deviennent réticents puisqu'ils considèrent de plus en plus que les Européens sont plutôt un obstacle pour l'avancée, le progrès de la négociation.
L'hypothèse de troupes au sol a été posée dès le 11 mars dernier par les deux chefs d'état-major, l'amiral britannique Tony Radakin et le général français Thierry Burkhard. Un déploiement qui ne sera pas une force d'interposition précisée française et britannique, mais qui pour être dissuasive devra être composée de grandes unités, soit près de 30 000 hommes, envoyer nos meilleures troupes, C'est un pari risqué, analyse Philippe Gros de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Vous avez vu ce que c'est cette guerre en Ukraine? C'est un champ de tir où on tire des milliers de drones par jour sur tout ce qui bouge. Toutes les manœuvres sont tuées dans l'œuf. Vous pouvez pas dissuader avec quelques jours ou deux semaines de munitions. Cette histoire de troupes, elle est dans les limbes depuis plusieurs mois. Tout ça ne reposait que si derrière vous aviez la garantie américaine. Le fait qu'il n'y ait plus la réassurance américaine, tout ça tombe à l'eau.
6 mois seront nécessaires, disent les militaires, pour déployer des hommes au sol. Il faudra aussi peser tous les risques, souligne Vincent Touré de l'Université de Montréal.
Si c'est pour créer une finule 2.0 sous menace Iskander, je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Parce que nos brigades, même mises sur aller 3 directions différentes importantes, à 50 km de la zone du front, même plus loin, elles n'auront pas la capacité de peser en fait sur l'escalade. Donc en fait, pourquoi aller à l'étape du sol avant de pas faire celle aérienne qui me paraît être un prérequis, quoi.
L'utilisation d'avions de chasse le long de la frontière ukrainienne serait plus rapide et tout aussi dissuasif, font d'ailleurs entendre d'autres voix. Mandat a été donné aux militaires français et britanniques de se rendre en Ukraine pour préparer toutes les options.
Un dossier signé Franck Alexandre. On termine en musique avec les musiques traditionnelles du monde entier qui sont chaque année au cœur de la programmation du festival Babel Music XP qui s'est tenu fin mars à Marseille. Une volonté de refléter la diversité et la vitalité de ces musiques traditionnelles et surtout d'empêcher qu'elles ne soient l'enjeu d'une récupération politique par les conservateurs, voire les réactionnaires. Reportage Olivier Roger.
Chants ancestraux syriens, rites populaires galiciens, violons limousins ou encore harpe coréenne, à Babel Music XP, la tradition tient le haut de l'affiche, mais une tradition vivante, évolutive et connectée à son époque. Pour Olivier Ray, le directeur du festival, les musiques traditionnelles ne doivent pas être figées dans un passé mythifié.
On se rend compte qu'il y a des jeunes générations qui s'emparent des musiques traditionnelles et qui ont une expression extrêmement contemporaine. Et donc cette démarche-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet à la fois de travailler la dimension traditionnelle et patrimoniale, mais de ne pas la laisser en friche pour des pouvoirs politiques qui auraient juste des idées. Les conservateurs ont vite fait de procéder à de la récupération notamment des traditions et d'un fantasme d'une tradition épurée, c'était mieux avant, etc., etc.
Explorer l'avant-gardisme à l'aide du passé, c'est l'enjeu que se sont fixés les deux coréennes, Ah Soo-yeon et Wang Yeyung, virtuoses d'instruments à cordes dont l'origine remonte à plus de 10 siècles. Ah Soo-yeon.
En fait, pour moi, notre musique est avant tout de la musique traditionnelle modernisée. Nous faisons de la musique coréenne contemporaine, mais parfois nous y ajoutons des éléments de musique traditionnelle. À d'autres moments, nous mettons dans nos morceaux juste nos sentiments et nos émotions.
Cette liberté de manœuvrer dans le temps, on la retrouve chez les Albanais de Shkodra Electronic, qui propulsent la musique Shkodra de leur ville natale dans l'ère des logiciels, un électrofolk transgressif et jouissif à la fois. Kole Laka est le compositeur du groupe.
La musique traditionnelle chez nous est toujours très vivante. Ce n'est pas une musique que personne n'ose toucher ou qu'il ne faudrait pas bouger. Non, en fait, on la bouge tous les jours, cette musique. Peu importe la façon dont les groupes jouent les standards, chacun peut s'en emparer et les interpréter à sa sauce.
À l'ère du repli sur soi et du conservatisme, Babel Music XP démontre que la fraîcheur et l'ouverture d'esprit habitent plus que jamais les musiques dites traditionnelles.
C'était Olivier Roger pour le Festival de musique traditionnelle de Marseille. C'est la fin de cette demi-heure de mission. Un grand merci à Arthur Bon à la réalisation.
découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Toujours plus, toujours mieux. Se fixe-t-on trop d'objectifs dans la vie ?
Mardi.
Rediffusion de notre émission sur l'IA et la surveillance policière. Comment concilier liberté et sécurité ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.